100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Tete combo, yes sangue combo, di meawa, yelja lebewa.
Bonjour, comment réparer les injustices commises par les Européens à l'époque coloniale? En Allemagne, le débat agite depuis peu la société. La semaine dernière, Berlin a ainsi décidé de renommer une place du nom du roi Rudolf Douala Mangabel. Véritable héros national au Cameroun, cette figure historique a été pendue en 1914 par les Allemands pour s'être opposé à une décision de l'administration coloniale. Ce changement de nom n'est pas le premier, mais il n'a rien d'évident. À Berlin, certains s'y sont opposés pendant des années. Reportage sur ce processus tardif de réparation de Delphine Herbelier.
Entendre chanter l'hymne national camerounais dans les rues de Berlin, voilà qui est inhabituel. En ce 2 décembre, froid et gris, l'événement se prête toutefois au solennel. Les autorités berlinoises ont rendu hommage à Rudolf Douala Mangabel, le roi de Douala qui fut pendu en public par les autorités coloniales allemandes en 1914. Pour réparer cette injustice historique, une large place porte désormais son nom dans le nord de la capitale, un lieu jusqu'à présent appelé Place Nartigal, du nom de l'homme qui fit du Cameroun une colonie allemande en 1884. Dans la foule venue célébrer l'événement se trouve Jean-Pierre Félix Eyoum. Il est un descendant du roi de Douala, qu'il décrit comme un homme de paix.
Rudolf Douala Mangabel a donc passé presque 6 ans en Allemagne. Il était ici pour faire ses études et quand il est rentré au Cameroun, il est devenu le roi à Douala et il s'est opposé à certains plans du gouvernement allemand colonial qui essayait donc de déposséder les gens, de leur prendre leur terrain, etc. etc. Et il a dit mais non, ça ne se passera pas comme ça. Et évidemment, ça n'a pas plu aux Allemands.
Si la capitale allemande a voulu réhabiliter ce résistant camerounais, elle n'a pas non plus oublié sa femme, Émilie. La place porte en effet le nom du couple royal, Rudolf et Émilie Douala Mangabel. Pour son arrière-petite-fille, la princesse Marilyn, venue spécialement du Cameroun pour assister à la cérémonie, Émilie reste un exemple dans son pays.
Emma Ngome Dayas était une femme forte, éduquée, à l'occidentale et à la camerounaise. Et elle nous a alimentés dans cette résistance. La résistance, lui était résistant politique, elle était la résistante femme qui a permis à toute une famille, malgré les pressions, malgré la misère dans laquelle elle est tombée, elle a permis à cette famille de continuer à exister et c'est la raison pour laquelle mon roi et moi-même sommes ici.
Débaptiser des rues qui portent le nom de colonisateurs allemands pour les renommer en hommage à des résistants africains, ces réparations tardives commencent à se multiplier en Allemagne. Et si ces gestes semblent simples, ils ne le sont pas. À Berlin, par exemple, le processus a duré 6 ans pour la nouvelle place Mangabel. Un chemin semé d'embûches, comme le rappelle Stéphanie Remlinger. Elle est la maire de l'arrondissement de Berlin-Mitte.
Partout où nous changeons les noms des rues, nous avons des plaintes. Je trouve ça plutôt normal. Il ne faut pas que cela soit un acte décidé uniquement par l'administration. C'est bénéfique que cela crée un débat dans la population, surtout sur un tel thème, le colonialisme, que nous avons tous, je pense, à peine abordé à l'école. Dans ce cas concret, cela a duré 6 ans, depuis l'idée initiale jusqu'au dévoilement des panneaux avec le nouveau nom de la place. Et cela montre que ce ne sont pas des processus faciles. Mais ils valent le coup. Il est toujours bon de se pencher sur son propre passé.
En Allemagne, le travail de mémoire autour du colonialisme a longtemps été éclipsé par celui de la Shoah. Les choses évoluent toutefois depuis une dizaine d'années. L'histoire de l'empire colonial allemand, qui s'étendait entre autres du Cameroun aux actuelles Tanzanie et Namibie, et qui s'est effondrée avec la défaite à la Première Guerre mondiale, est désormais beaucoup plus présente dans les médias, musées et débats. Et cela grâce à la pression de la société civile et des organisations africaines locales. Éléonore Bekamenga fait partie de l'une d'entre elles, l'Africara, qui milite depuis déjà 20 ans pour renommer certaines rues de Berlin. Elle constate le chemin parcouru depuis tout ce temps.
Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un processus. Ça a commencé il y a cela environ 20 ans. Bon, heureusement, on n'a pas perdu espoir. On a toujours dit, écoute, il y aura un jour où notre voix sera aussi entendue. J'ai vu l'évolution de la société allemande. C'est bien, il faut vraiment cette ouverture-là totalement.
Après le changement de nom de certaines rues et places, les militants attendent d'autres pas concrets. Jean-Pierre Félix Eyum, le descendant du roi Rudolf Douala Mangabel, a déposé une pétition au Bundestag pour que son ancêtre soit officiellement réhabilité. Et il y croit.
J'attends que le gouvernement allemand, enfin, prononce ces mots-là. Nous sommes désolés d'avoir fait ce que nous avons fait. Voilà, c'est ça que j'appelle réhabiliter Rudolf Douala Mangabel. J'espère que ça aboutira, j'espère, voilà.
Du côté du gouvernement allemand, pas encore de réponse officielle à cette demande, mais on assure vouloir faire du travail de mémoire sur la période coloniale une priorité. En attendant, on se tient jusqu'à la fin du mois une exposition entièrement consacrée à Rudolf Douala Mangabel à Hambourg, une première dans le pays. Angola, Angola, e poça, a minha oscata mata, o meu corpo amanhã caminha.
Au Portugal aussi, le débat sur le passé colonial de cet ancien royaume est encore balbutiant. Mais la décision de la France de commencer à rendre des œuvres d'art mal acquises pendant la période coloniale a agi comme un électrochoc. Depuis, les autorités portugaises et les musées veulent ouvrir la boîte de Pandore. Mais le principal problème est que le pays ignore totalement ce dont il dispose. L'idée, c'est donc de faire l'inventaire déjà des objets allant des œuvres d'art jusqu'aux ossements, en passant par les archives, en provenance de ces anciennes colonies. Les explications à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Le ministère de la Culture portugaise devrait confier au musée et à l'Académie des Arts le soin de faire un inventaire des œuvres coloniales. Mais la principale difficulté à ce stade, c'est que le Portugal ne sait pas ce qu'il détient et où, et dans quelles circonstances il s'est rendu acquéreur ou dépositaire. Il y a bien eu en 2020 un début de répertoire du patrimoine détenu par les musées provenant de territoires non européens, mais il n'a pas abouti. Et même les directeurs de musées ignorent ce que contiennent les dépôts. Le Portugal souhaiterait pouvoir retracer le voyage jusqu'à chez lui des biens culturels venant d'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, pour ne parler que des pays africains. Et l'on juge fondamental de pouvoir cerner l'importance d'un objet précis pour un pays, une ethnie et même une tribu. Le dossier se complique encore avec les archives coloniales. Doit-on rendre les originaux ou bien des copies digitalisées? Qui est détenteur de ces archives? Pour l'instant, aucun pays africain n'a formulé de demande précise, mais on sait que l'Angola s'y prépare. Le pays africain veut rénover son réseau de 14 musées et cherche à savoir où sont les biens, au Portugal, en France, en Belgique et même aux États-Unis. Parmi les œuvres détenues par le musée d'ethnologie à Lisbonne figurent des machettes polies datant du néolithique et des objets d'art tchokwe. Le Portugal qui envisage des négociations cas par cas, mais le gouvernement souhaiterait éviter un débat public dont il redoute la crispation, tant la question coloniale est encore brûlante au Portugal.
Si le débat sur le retour des biens culturels dans leur pays d'origine agite particulièrement le continent africain, il est d'autres pays comme la Lituanie qui sont rassurés à l'idée de savoir certaines de leurs œuvres à l'étranger. Le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, par exemple, a un fonds lituanien présent en France depuis 1900 et cette situation convient parfaitement à la Lituanie, Marielle Vituro.
Dans l'une des salles de la réserve du musée, le MUCEM à Marseille, Raphaël Bory soulève doucement le papier de soie. Le conservateur a disposé quelques objets du fonds lituanien sur la table.
Outre les sculptures sur bois, on a ici un kankles. Donc c'est un magnifique instrument de musique traditionnelle, avec là aussi une sculpture sur bois tout à fait spectaculaire. Après d'autres objets sculptés, donc vous avez notamment cette très belle quenouille où on va retrouver les mêmes motifs de rosaces que ceux que l'on a pu voir sur le Canclès.
La plupart des 255 objets ont été exposés en 1900 lors de l'exposition universelle qui s'est déroulée à Paris. Au début du XXe siècle, la Lituanie n'est pas un État indépendant. Elle fait encore partie de l'Empire russe. Mais grâce à la ténacité des Lituaniens en exil, elle peut avoir son propre pavillon au Trocadéro avec des textes lituaniens écrits en alphabet latin et non pas en cyrillique, comme l'impose le pouvoir tsariste. Mais pour Miglé Lebenikaité, historienne de l'art au Musée national, c'était une manière de se révolter par rapport à l'emprise russe.
Il y avait réellement le souhait de montrer au monde que nous étions une nation vivante, que notre héritage était important, mais que nous étions asservis et que nous ne pouvions pas parler notre langue.
La France conserve des pièces maîtresses de l'art populaire lituanien car les plus beaux spécimens avaient été sélectionnés pour l'exposition universelle en 1900. Mais pour Miglė Lebednykaitė, l'intérêt est ailleurs.
C'est très important qu'une partie des collections lituaniennes soit en France. C'est déjà une sorte de garantie que la collection est entretenue et montrée au public. Mais dans le contexte actuel de guerre, c'est aussi une question de sécurité et de protection.
En 2024, la Lituanie organise une grande saison culturelle en France. Les trésors lituaniens pourront alors de nouveau être vus de tous.
Patrimoine toujours, quelles sont les couleurs d'origine d'une sculpture de la Grèce antique vieille de 25 siècles? Quelle est la provenance géographique des matériaux qui la composent? C'est pour répondre à ce type de questions que les nouvelles technologies, à commencer par les outils numériques et la cartographie en 3D, sont aujourd'hui au cœur du travail des archéologues et des chercheurs. Illustration à Athènes avec le reportage de Joël Brunner.
Voir l'invisible, voir au-delà de ce que nos yeux voient. Voilà l'une des missions que les archéologues confient aux nouvelles technologies. Exemple avec l'une des plus célèbres sculptures de la Grèce antique. À cette époque, un conducteur de chars de guerre ou de course, comme on peut en voir dans le film Ben-Hur, s'appelle un aurige. La statue en question représente donc un aurige, grandeur nature, et puisqu'elle a été découverte lors de fouilles en 1896 dans la ville grecque de Delphes, la sculpture est connue sous le nom de l'aurige de Delphes. Si l'aurige intéresse particulièrement les chercheurs, c'est notamment parce qu'elle est l'une des cinq seules grandes statues de bronze, sur des milliers, à être parvenue jusqu'à nous et qu'elle a pu être précisément datée, ce qui en fait un repère, un jalon, pour l'étude d'autres œuvres antiques. Sophie Descamps, conservatrice générale du patrimoine au musée parisien du Louvre.
On sait que depuis 1896, il y avait eu énormément de recherches, énormément d'études publiées, mais la chance que nous avions, nous, c'est que nous pouvions dépasser notre simple observation visuelle et que nous pouvions utiliser toutes ces méthodes si étonnantes. On a pu, finalement, je crois, aller très loin dans la connaissance de cette œuvre qui attendait qu'on puisse développer davantage encore ce qui avait été développé par tous nos prédécesseurs qui avaient pu travailler sur l'œuvre elle-même.
Une lumière verte lui scrute l'œil, puis une lumière bleue se reflète sur son visage. Tel un patient à l'hôpital, l'aurige de Delphes passe, immobile, sous l'œil inquisiteur des objectifs, des appareils, des ordinateurs et des machines. L'une des méthodes d'analyse les plus complexes à mettre en œuvre dans le musée de Delphes, qui abrite l'aurige, a été la radiographie destinée à détecter les soudures. Benoît Mille, ingénieur au Centre de recherche et de restauration des musées de France.
Dans un local spécialement conçu pour la radiographie, on a des générateurs de rayons X. Et en général, on fait de la radiographie par rayons X. Le problème avec l'aurige de Delphes, c'est qu'il fallait faire la radiographie sur le lieu du musée et qu'il n'existe pas de tube de rayons X portable suffisamment puissant pour faire une radiographie de la statue. Par contre, il existe une autre technique qui est d'utiliser des sources radioactives qui sont capables d'émettre des rayons gamma.
Grande comme une tête d'épingle, précise Benoît Mille, la source du rayonnement électromagnétique tient dans une toute petite boîte.
C'est un matériau un peu particulier, c'est de l'iridium 192. Ça émet des rayons gamma qui vont traverser les parois de bronze de l'aurige et qui nous permettent d'obtenir une radiographie, un petit peu comme les radiographies qu'on fait dans le domaine médical, mais là on la fait sur place, directement sur le lieu du musée.
Fruit de nombreux partenariats et d'une collaboration internationale franco-grecque, cette nouvelle vague d'études sur l'aurige a donc comporté d'importants défis logistiques dû à l'usage de technologies de pointe au cœur d'un musée resté ouvert. Des études permises par l'évolution même de ces technologies, comme la miniaturisation du matériel électronique qui le rend plus transportable, ou les progrès de l'informatique et d'outils toujours plus sensibles, permettant de passer de l'étude parcellaire d'une œuvre à une cartographie plus large. Véronique Chankowski, directrice de l'École française d'Athènes, rappelle toutefois que cette collaboration entre archéologie et technologie, elle, n'est pas nouvelle.
Quand on regarde dans les archives, on s'aperçoit que ces nouvelles technologies, elles ont toujours accompagné le développement des chantiers de fouilles dès les débuts au XIXe siècle. Alors bien sûr, avec des technologies qui sont celles de leur temps, mais en réalité, ce mouvement de lien entre les nouvelles technologies et l'archéologie, il existe en permanence dans l'histoire de l'école et dans l'histoire de l'exploration archéologique des sites en Grèce.
Concernant la sculpture de l'Auriche de Delphes, cette nouvelle salve d'analyse et de prélèvement a permis de conclure que la statue, aujourd'hui vert brune, était en réalité dorée à l'époque antique. Plus surprenant, les technologies employées ont également révélé que la statue proviendrait non pas de Delphes, mais du sud de l'Italie, à une époque où celle-ci appartenait à la Grèce antique.
Après la COP27 en Égypte, avant-hier, c'est la COP15 qui s'est ouverte à Montréal, au Canada. Une autre conférence des Nations Unies qui se concentre, elle, sur la biodiversité. Sa feuille de route, mettre fin à la perte de la diversité des espèces d'ici à 2030. Alors pour l'occasion, Clémence Pénard, vous nous parlez d'une enseigne américaine absolument pas écolo. Bonjour Clémence.
Bonjour Léa Lisa.
Mais la plus grande chaîne de restauration rapide au monde, McDonald's bien sûr, veut faire des progrès et commence à utiliser des emballages réutilisables. C'est le sujet de votre chronique, l'Europe du net.
Et oui, des emballages réutilisables, attention que si l'on mange sur place, hein, bien sûr, mais joli, tendance vintage. Et ça donne plutôt envie, ça nous ferait presque déculpabiliser de s'engouffrer un énorme steak dégoulinant de sang entre deux tranches de fromage lyophilisé. Le géant du fast-food américain devient donc ambassadeur de l'anti-gaspi. On s'y attendait pas. Et Juan Buis non plus, cet Anglais en voyage à Paris la semaine dernière commande son coca et ses frites et là, paf, non, ces potatoes ne sont pas servies dans un banal carton taché de gras, mais dans un nouvel écrin, un cône en céramique rouge. Juan, stupéfait, décide alors de prendre en photo le dit plateau et de poster ça sur Twitter.
Complètement obsédé par le design de cet emballage réutilisable chez McDonald's France.
Sa publication devient virale, 380 000 likes, 29 000 retweets, dont celui d'Emmanuel Macron. Le président français en a profité pour faire l'éloge de sa loi anti-gaspillage. En résumé, dans son tweet, il dit que cette loi, promulguée en 2020, ce n'est pas seulement la fin des pailles en plastique, mais ça veut dire partout de la vaisselle réutilisable.
Concrètement, Clémence, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi anti-gaspillage ?
Alors, l'idée, c'est la fin de la vente d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2030. Et la prochaine étape, le 1er janvier 2023, qui marque le début d'une nouvelle ère pour les fast-foods avec la fin des emballages jetables. Les autres enseignes, KFC, Subway, Starbucks, toutes sont concernées par la loi. Alors pour Célia Renson, cofondatrice de l'association Réseau Vrac, c'est déjà un pas.
Là, le 1er janvier est attendu, c'est demain, il n'y a personne qui est prêt, enfin pas grand monde. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'initiative de McDo, elle est en train d'embarquer ses concurrents. Donc, c'est plutôt positif. Il y a les acteurs qui sont peut-être moins engagés à la base, mais qui font le volume. Et typiquement, ce type d'acteurs-là, les fast-food, vu les millions de repas qui sont servis, pris, emportés, et donc les emballages jetés, si vous changez la moindre petite chose, eh bien, ça aura un impact assez grand, en fait.
Mais des points sombres persistent. Si le service à table est concerné par ces changements, qu'en est-il des ventes à emporter ? Et puis pour le moment, le nouvel emballage McDo est testé dans plusieurs établissements en France. Mais rien qu'à Paris, ce n'est pas encore la norme dans tous ces points de vente.
Mais l'idée, Clémence, c'est qu'on essaye de réduire tous ces déchets d'emballage à l'échelle européenne, non ?
Oui, voilà. La Commission européenne fait pression pour que tous les secteurs abandonnent les emballages à usage unique. Une législation européenne imminente pourrait d'ailleurs obliger les restaurants de restauration rapide à servir 40% de leurs repas dans des emballages réutilisables et ce, lorsque les clients s'assoient à l'intérieur pour manger. Une bonne nouvelle donc, parce que je vous laisse quand même avec ce chiffre pour hanter vos nuits. L'Européen moyen génère environ 180 kg de déchets d'emballage et ça, c'est chaque année.
Merci Clémence Pénard. On vous retrouve jeudi prochain. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure en podcast sur notre site rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute. À demain.